Christophe Couturier, bonjour.
Bonjour Didier.
Vous êtes directeur général d'Ecofi Investissement. On va revenir avec vous sur la situation sur les marchés et sur les perspectives. Ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas rencontrés et on s'était rencontrés dans un tout autre contexte, début d'année, avec le scénario principal des investisseurs qui était d'attendre, en tout cas, de voir cette reprise économique se confirmer, des marchés financiers qui progressaient, effectivement, et puis depuis, s'est passé beaucoup de choses, notamment cette crise du mois d'août. Un mois et demi après, de votre point de vue, qu'est-ce qui aujourd'hui est le plus inquiétant sur les marchés?
Mais en fait, nous avons assisté sur ces derniers mois à une double crise politique. Une première crise politique aux États-Unis, dans laquelle vous avez pu constater une bataille entre les républicains et les démocrates concernant le déplafonnement de la dette. Tout cela a inquiété les marchés, d'autant que ça s'est passé dans un contexte où l'économie américaine, qui avait bien rebondi et qui est donc en phase au premier semestre plutôt bonne reprise, eh bien, cette reprise s'est essoufflée. Malgré l'injection de liquidités, le fameux quantitative easing 2, eh bien, dès lors qu'il s'est arrêté, l'économie a à nouveau ralenti. Donc, double problème pour les investisseurs, crise politique et problème économique de crainte de récession aux États-Unis, qui ont été, je dirais, initiés par une chute très très importante dès le mois de juin des indicateurs de confiance des ménages, une chute qu'on n'avait pas vue depuis 1984. Et donc tout cela s'est amplifié, les gens sont mis à scruter les chiffres de l'emploi qui n'ont pas été très bons, pas très mauvais non plus, mais pas très bons, et donc eh bien, l'inquiétude est née. Du côté européen, crise politique également, puisque les métriques de la dette grecque ne se sont pas améliorées, les plans d'austérité grecs n'ont pas porté les fruits attendus, et donc on s'est retrouvé avec une nouvelle crise de la dette européenne qui a démarré fin juin avec la remise en cause de la dette grecque, la possibilité qu'il y ait des problèmes de remboursement, qu'on a cru régler le 21 juillet lors de l'accord européen du 21 juillet, mais dont la mise en œuvre est finalement assez lente et dont les conditions n'ont pas entièrement convaincu certains investisseurs qui ont commencé à craindre une contagion vers d'autres pays. Et donc l'inquiétude s'est étendue à des pays plus importants comme l'Espagne et surtout l'Italie. Et donc à ce moment-là, ça a occasionné une baisse de valeur de ces dettes, dont les stocks sont très importants, et donc une baisse de valeur des bilans bancaires. Et donc un troisième problème qui est, les banques vont-elles résister à cette baisse de valeur des titres d'État, dont vous vous souvenez qu'ils n'avaient pas été pris dans les fameux stress tests comme étant des éléments risqués. Et finalement, c'est de là qu'arrive le problème.
On l'a vu avec Dexia,
Alors, mais Dexia,
qui
qui
passait
était
les tests.
un établissement qui détenait des portefeuilles importants de dettes sur ces pays-là, eh bien, s'est trouvé mise en difficulté parce que la perte de valeur, devant être provisionnée instantanément, a érodé ses fonds propres et donc a nécessité une intervention des pouvoirs publics.
Est-ce qu'on doit tout attendre des pouvoirs publics, puisqu'on sait que le temps des investisseurs, le jour, voire la nanoseconde pour ceux qui font du high frequency trading, ça c'est effectivement très rapide. Et le temps politique, on le sait dans la zone euro, ça effectivement, notamment, il faut convaincre les Slovaques en ce moment, par exemple, ça prend plus de temps que le temps des investisseurs.
Bien sûr. Alors, on doit attendre quand même un certain nombre de choses des politiques, puisque il y a dans la situation présente des problèmes politiques importants. Comment gère-t-on l'équilibre des budgets des différents États? Est-ce que les États qui ont pris trop de liberté avec les critères, comment est-ce qu'on à la fois on les soutient et comment est-ce qu'on les amène à avoir une politique plus vertueuse? Donc, ces questions politiques sont très très complexes. Elles se résolvent. Je dirais petit à petit, je suis relativement confiant sur le fait qu'elles trouveront une solution favorable et qu'on sortira finalement par le haut de cette crise, mais on voit bien qu'on doit quand même attendre des décisions politiques. Parallèlement, les marchés sont impatients. Il n'est pas nécessairement légitime qu'ils soient aussi impatients. On a vu, par exemple, des questions sur la solidité de certaines grandes banques françaises qui étaient plus des rumeurs que correspondent à une réalité. Néanmoins, il s'est créé une certaine volatilité sur les dettes de ces établissements. Tous les systèmes de mesure de risque liés à la volatilité ont demandé de réduire la position. Si on réduit la position, ça crée des problèmes de financement et Le problème est un peu vicieux, si vous voulez. C'est-à-dire que, à partir de là, on a d'autres inquiétudes et finalement, le système ne fait que s'amplifier. Donc la solution, elle est au départ politique. Et dès qu'une solution politique sera trouvée, eh bien, vous verrez que les problèmes des banques se résolveront rapidement puisqu'ils sont dus aux problèmes des titres d'État. Puisque l'activité, par ailleurs, si l'on regarde l'activité économique, elle ralentit, mais elle n'est pas passée en négatif. Et
ce qui était une des craintes
alors,
de certains investisseurs
c'est pas
en disant
que ça finisse par arriver.
On voit Moody's hein, qui dit le risque aux États-Unis par exemple, on est à cœur, c'est des probabilités 40%. Alors c'est pas 50, c'est pas 60, mais il y a un risque de retour en récession.
Alors pour les épargnants, peut-être une bonne nouvelle, c'est que les chiffres d'emploi qui ont inquiété finalement jusqu'à septembre, les révisions qui ont été faites récemment sont favorables. Et le dernier chiffre d'emploi aux États-Unis est plutôt en rebond. Donc la courbe de l'emploi se réinfléchit. L'emploi créé aux États-Unis vient surtout du secteur privé. Et le secteur public continue à détruire des emplois. Mais finalement, le secteur public plus économe, c'est un début de solution au problème de dépenses excessives. Et donc finalement, c'est pas si mal. Et l'on voit que les États-Unis vont. La croissance va ralentir. Selon nos économistes, à peu près 1,8% de croissance, ce qui n'est pas beaucoup pour les États-Unis, mais 1,8%, c'est positif, ce n'est pas une récession. Et donc, je pense que finalement, les inquiétudes sont excessives et on devrait assister à un redémarrage de cette économie américaine.
Vous parliez des épargnants, ils sont sans doute déboussolés, hein, même si effectivement ils s'intéressent à l'économie, à la bourse, à tout ce qui se passe. Il y a ceux qui sont en dehors de ces marchés, hein, qui ne souhaitent pas effectivement participer à cette volatilité. C'est compliqué pour les épargnants. Est-ce qu'on peut investir sur ces marchés? Comment on investit sur ces marchés?
Alors il faut garder à l'esprit qu'un investissement en bourse est un investissement de long terme, c'est-à-dire au moins 5 ans. Et donc, si on regarde effectivement au jour le jour, on peut être inquiet. Mais acheter aujourd'hui des actions au prix où elles se trouvent, avec des PER de grandes sociétés où vous trouvez à 4 fois ou 4 fois et demi les bénéfices, des sociétés très bien gérées, ayant une diversification internationale de leurs activités, c'est bradé. Il y a des problèmes de liquidité, il y a des craintes des investisseurs, bon, disons une situation de pré-panique. L'investisseur qui a le temps devant lui, qui dort tranquille, même s'il voit la valeur de son épargne fluctuer, elle peut baisser de 10% demain. Mais à 5 ans, il aura fait un bon placement.
Peut-être un mot de conclusion, c'est le changement qu'il y a sur ces marchés, peut-être par rapport au marché traditionnel, ce qu'on avait en tête avant sur les marchés. On disait on prend un certain nombre de valeurs, on crée son portefeuille quelque part, on dort, c'était pas tout à fait l'idée, mais il n'y avait pas cette volatilité, ces variations quotidiennes. Aujourd'hui, on est obligé de se dire, il faut peut-être être réactif de temps en temps, réajuster, être capable de bouger sur son portefeuille.
Alors, il faut effectivement être très sélectif dans la qualité des titres qu'on choisit, puisque effectivement, il y a un petit peu d'effervescence, et donc si on se trouve sur des titres fragiles, on est dans une situation, bon, on l'a vu avec la banque Dexia, une situation où certains établissements peuvent se trouver véritablement en difficulté du fait de cette conjoncture tendue. Maintenant, si on choisit de très bons titres, très solides, ayant un bon rendement, bien diversifié de manière internationale, eh bien, à ce moment-là, les mouvements, les fluctuations, eh bien, il ne faut pas s'en occuper. L'épargnant, il place pour le long terme. Il a son rendement qui est intéressant, donc il va le toucher chaque année, même si le dividende peut être ajusté en fonction des circonstances. Mais il aura un rendement correct et la revalorisation de son capital devrait être intéressante.
Merci d'avoir fait le point avec nous sur cette situation sur les marchés. Christophe Couturier, on rappelle que vous êtes donc directeur général d'Ecofi Investissement.
Merci Zillier.